Bonjour à tous, et merci beaucoup pour me laisser m'exprimer sur ce sujet. Donc, voile, peau et surface, Rushetan de Rafael Iturbide ou l'épiderme du réel. Donc, dans la série Rushetan de Rafael Iturbide, la présence récurrente d'images, de voiles, de tissus, de matières diverses et variées sur la peau des sujets photographiés permet de penser une analogie entre la surface de l'image photographique et la peau. Ces images seraient l'épiderme du réel qu'elles représentent, donc un réel voilé, silencieux parce que marginal. En effet, la peau et la photographie sont toutes les deux définies en ce qu'elles sont des surfaces, sans profondeur, tout en étant le manque même de cette surface. Elles l'expriment mais sans parole. Ces images deviennent dès lors autotéliques. La photographie se montre comme une surface parce qu'elle manque sa matérialité et les images de voile qui cachent des corps parlent en fait du silence de l'image elle-même. À travers donc ces images de tissus et de corps, Graciela Iturbide propose une réflexion entre corporéité et surface qui viendrait donc souligner d'une part le silence de l'image photographique et d'autre part le silence imposé à cette communauté indigène. Une poétique de la peau et du voile en photographie est alors envisageable. Elle est ici alors traitée comme un lieu d'inscription ethnique et culturelle, où corps et paroles sont voilés par le silence photographique. Nous étudierons à partir de la production de la photographe, donc les motifs de la peau, du tissu, de la transparence et du voile. Donc l'hypothèse que nous développerons consiste à donc envisager le fait photographique comme une manifestation sensible du toucher, malgré le fait que ça puisse paraître paradoxal. Donc cette intervention prend comme fondement théorique l'ouvrage de Delica Sagre, Intersexed Identities, Strategies of Visualization in 19th and 20th Century Mexican Culture. Donc en particulier les chapitres The Poetics of the Skin et The Hermeneutics of the Veil. Donc les chapitres 6 et 7. Ils envisagent le tissu et la peau comme étant donc des motifs récurrents de la photographie mexicaine, en particulier lorsqu'elle traite du thème indigène. Donc l'interrogation qui guidera notre intervention serait donc dès lors, comment penser la corporéité de l'image si elle n'est que surface, profondeur, sans profondeur, pardon. Que peuvent donc exprimer les images muettes et voilées de ces corps? Ce sont autant de questions qui orienteront notre réflexion. Nous envisagerons tout d'abord les images de Graciela Iturbide à partir du sens du toucher. En montrant la peau et ses textures, elle propose des images multisensorielles. Ensuite, nous penserons le motif du tissu dans cette série comme un symbole du seuil. Les corps photographiés sont rendus muets, invisibles, par les couches de tissu qui les entourent. Finalement, ces images permettent de réfléchir à la transparence du voile. La photographie se rend alors autotélique, en tant que le motif qui s'affiche renvoie à la surface qui la constitue. Donc, dans la première partie, intitulée « Le toucher, la peau, les textures », j'analyserai donc trois images, à commencer par celle-là, « Rosa de Xochitl ». De 1979. Donc, dans les images de Graciela Iturbide que nous proposons donc d'analyser dans cette partie, nous pouvons distinguer des manifestations différentes d'une esthétique de la peau et du tissu. Nous envisagerons la peau comme le tissu du corps, qui cache et protège à la fois l'intériorité d'une personne. L'habit serait alors considéré comme étant une seconde peau. Nous tenterons dans cette partie donc d'envisager les modalités que prend le concept de surface dans sa forme corporelle, dans la série de la Graciela Iturbide. Dans ces images, on voit donc des manifestations variées de la peau, animale ou humaine, et qui prennent des textures différentes, et qui, d'un point de vue visuel, se traduisent par un grain différent et par des choix esthétiques différents. La manifestation la plus évidente de la peau dans cette série se trouve... Dans ces images de nus, donc comme celle-ci, Rosa, on remarque que ce sont des nus très différents des nus photographiques traditionnels, puisque ce ne sont pas des images de mode ou des images directement artistique, avec un fond neutre, comme c'est souvent le cas dans ces images-là. Au contraire, ici, ces nus s'ancrent donc dans leur contexte d'énonciation. Et s'il y a bien une recherche plastique pardon, dans ces images, elle s'exprime à travers un travail de documentation de la population du Cuchitán, donc la communauté zapothèque. Par contexte d'énonciation photographique, j'indique bien sûr que ce sont des corps qui sont situés dans le milieu dans lequel évoluent ces personnes. Donc ainsi, ces nus sont ancrés dans un contexte, celui de la communauté, et l'on voit cette inscription politique dans la représentation des corps, puisque le fond, l'arrière-plan des images permet toujours de les restituer, à l'inverse d'une photographie de studio, par exemple. Ainsi, le traitement particulier du nu chez Iturbide est emblématique. Dans ces images, le nu était donc associé à l'intimité, comme on peut le constater dans Rocha, mais également à une certaine naturalité, où la pudeur n'est pas forcément présente. Ces corps nus de femmes ne sont pas du tout érotisés, et ils s'intègrent parfaitement à leur contexte, la chaleur, le bain, les coutumes du groupe. Dans la photo Rocha, le corps se situe sur un seuil entre ombre et lumière. Un corps à l'ombre du soleil dans le seuil de sa maison. Par cette nudité, le spectateur peut presque ressentir la chaleur de l'extérieur qu'elle tente d'éviter. On devine à cette heure chaude de l'après-midi, ce temps calme de la sieste, la fraîcheur des ondes sur son corps. À l'image du seuil sur lequel elle se trouve, c'est une scène entre le privé et le public, entre donc le monde extérieur et l'intérieur de la maison. C'est donc un nu particulièrement concret qui nous est offert au regard, loin des représentations de corps idéaux et hors sol des images de mode. Ainsi, ce nu s'inscrit profondément dans le réel de sa prise de vue. L'autre modalité du motif de la peau que nous retrouvons ici et qui insiste sur cette dimension profondément matérielle est donc la représentation de peau animale. Il y a donc toute une série de reptiles qui insistent sur leurs écailles et la texture de leur épiderme. Elles peuvent ainsi se lire en regard aux corps humains qui parcourent la série Cuchitán. Ainsi, cette image Iguanas montre un tas de reptiles, donc des iguanes, amoncelés sur la partie haute de l'image, alors qu'un pied passe dans la partie inférieure. C'est donc une image en plongée. Et ici, le tas d'iguanes a donc des textures très différentes. On sent une attention particulière sur le motif de l'écaille. Ici, les motifs s'entremêlent. Leur queue pardon, dépasse du groupe et l'on peut presque les entendre grouiller et sentir donc leurs écailles. Cette scène est en fait une scène de marché et elle est vive et propose une modalité inédite de l'idée de surface, me semble-t-il. C'est celle de l'écaille, qui peut se lire donc par rapport à la peau nue comme une autre forme de matière que le spectateur pourrait donc toucher par la pensée. Donc, la troisième donc, manifestation de motif de la peau et de la texture passerait donc par la présence d'oiseaux que l'on retrouve dans plusieurs images. Je prends à chaque fois un exemple pour illustrer mon propos, mais c'est le cas dans plusieurs des images de la photographe. Donc ici, la texture des plumes, très différente de celle de la peau ou des écailles, est mise en valeur. Cette dimension tactile est accentuée par les liens qu'entretiennent les corps humains et les oiseaux. Ce sont vraiment ces plumes qui sont mises en évidence avec une échelle d'aigris, comme on le constate sur cette plume de ces Yelinas. Ainsi, donc, l'image Mercado de 1985 propose aussi une image donc, de poule avec un pied dans la partie supérieure. On remarquera que, comme dans l'image précédente, le pied est en fait souvent présent dans cette série et il semblerait qu'il marque donc la présence humaine. Et donc qui empêcherait en fait la décontextualisation du sujet photographique, donc en l'ancrant dans une scène de marché, dans une scène extérieure. Ces animaux ici, leur texture, leur peau sont en contact constant avec les humains qui les élèvent. Là encore, l'image montre des textures de plumes variées et les positions des oiseaux dont on voit les plumes et les griffes, certains par terre, d'autres debout, allongés, montrent donc une variété de textures. Ce sont donc des scènes vivantes qui mobilisent paradoxalement donc ce sens du toucher, comme je l'ai dit plus haut. Le noir et le blanc vont également dans cette perspective. Par l'absence de couleurs, l'œil n'est pas submergé de couleurs différentes. et le grain de l'image devient d'autant plus important, permettant ainsi de mobiliser d'autres sens que celui de la vue. Par là, nous pouvons faire l'hypothèse d'une photographie sensorielle qui devient une véritable expérience sensible et qui s'adresse à la pensée. Le sens de la vue, en ce qu'il est rattaché au corps, mobilise en fait tous les sens de ce dernier, provoquant ainsi une photographie vivante que l'on peut presque toucher par l'esprit dans une perspective, pourrait-on dire, synesthésique. Nous pouvons ainsi voir que malgré l'image photographique en deux dimensions, nous sommes face à une matérialité forte qui s'exprime dans la série par le biais de textures variées de peau humaine et animale. Si l'on voit donc une variété de peau et de textures se dessiner dans les images, acquérant par là un statut de photographie sensible, nous remarquons également que nombreuses sont les images qui montrent des tissus. Ces derniers s'affirment comme des secondes peaux qui cachent, suggèrent, tout en montrant une appartenance sociale. Dans ces images, la photographie devient une expérience sensible, donc tactile, et donc dépasse le simple sens de la vue. La deuxième partie évoquera donc les motifs du tissu, des silences et des seuils. Nous envisagerons maintenant les rapports entre les images de tissu pensées donc comme des silenciamientos, des corps photographiés, puisqu'ils sont opaques et cachent ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire le corps. Ainsi, par exemple, la Niña del Peine, photographie donc, montre une jeune fille de dos dont on voit la chevelure longue surmontée d'un peigne. La serviette, enroulée autour de la jeune fille, est faite d'un tissu opaque, cache son corps à l'extérieur. Nous sommes à nouveau face à une figure du seuil. Physiquement, d'abord, elle est entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Temporellement aussi, c'est une figure de l'entre-deux. C'est un moment de préparation à la sortie en extérieur, où l'on dompte son corps et sa chevelure aux impératifs extérieurs et aux codes sociaux. Ici, les cheveux cachent son visage tout en le suggérant. Un hors-champ se laisse entrevoir, celui du visage de l'enfant qui se retourne et qui se trouve en puissance dans l'image. Dans ces images, la chevelure fonctionne donc comme un tissu. Elle cache le sujet, l'habille, tout en le gardant dans la sphère du privé. C'est finalement une forme de tissu qui serait inhérente au corps. On voit ici donc une partie du corps qui cache un visage. Le peigne apparaît en fait comme un objet qui démêle les cheveux, comme un métier à tisser qui viendrait créer le tissu à partir de fils de cheveux. Dans cette image, la chevelure donc devient tissu. Elle cache et suggère, elle est le seuil, un moment d'entrebâillement où le visage du sujet tarde à venir. La seconde image que nous pouvons analyser est donc Después del rapto. Cette image montre quatre femmes qui effectuent une danse traditionnelle zapotèque. Ici, photographier leurs habits traditionnels, c'est également mettre en avant les textures variées de leurs habits. La dentelle, la laine, les couronnes de fleurs. Mais c'est également montrer ce qui cache leur corps de femmes indigènes. Ce sont des couches de vêtements, des jupons, des codes finalement, qui renvoient les femmes à leur rôle dans la société traditionnelle. Par ailleurs, les costumes et le titre de la photo renvoient donc à une tradition zapothèque particulière, l'enlèvement de la jeune mariée par la famille de son époux et la vérification de sa virginité après la consommation de l'acte. Si elle est vierge, le village fête le réunion pendant plusieurs jours. Donc ici, on pourrait dire que le tissu cache et dévoile à la fois. Les tissus cachent les corps des femmes tout en montrant symboliquement que le corps de la mariée est vierge. En montrant donc les costumes, le moment de liesse, le spectateur comprend que la femme mariée était bien vierge et son corps est donc exposé publiquement, si l'on peut dire, dans les habits de ses... Donc symboliquement, son corps est montré en spectacle par le biais des vêtements traditionnels que portent les autres femmes de la communauté. On voit ainsi comment le motif du tissu dans l'image participe à un voilement et à un dévoilement d'un même geste, dans l'intersection toujours du privé et du public. Dans cet hors-champ symbolique se trouve l'acte sexuel de la jeune mariée et son corps qui semble alors se dérober à elle puisqu'il appartient d'une certaine manière à la vie de la communauté. Ce corps de la mariée est montré cette fois-ci dans le champ de l'image, dans l'image El Rapto, où Graciela Iturbide a pu photographier donc une scène très intime après l'enlèvement de la mariée. Elle vient juste de consommer l'acte sexuel, et cet instant intime devient un moment public, puisque les célébrations de la ville peuvent commencer. Ici, le drap blanc semble donc renvoyer à la virginité tout juste perdue de la jeune fille, alors que les fleurs foncées soulignent le côté cérémoniel d'un tel moment. C'est un moment de silence après l'amour, avant donc l'affrontement avec la communauté, les moments de festivité. Ici, l'usage de la photographie est significatif. Médium silencieux par excellence, Graciele d'Urbide photographie un moment muet de réflexion intérieure. Ainsi, photographie autotélique s'il en est, la photographie silencieuse montre ici un moment de silence, de réflexion et d'introspection. Ici, le drap est le pendant matériel, sensible au silence. Si le silence empêche au spectateur d'avoir accès aux pensées intimes de la jeune femme, le drap l'empêche également de voir son corps, qui vient de connaître donc un profond changement sans doute. Ainsi, si la photographie est muette et que les tissus dissimulent les corps, nous pourrions envisager l'image comme une surface en tant qu'elle est seuil. La surface annonce la profondeur sans la dévoiler, tout comme la peau montre le corps sans dire ce qu'il s'y passe. Nous pourrions donc faire ici l'hypothèse d'une poétique du seuil qui s'exprime dans les images par la présence de tissus qui cachent et suggèrent à la fois. Seuil entre l'intime et le public, l'intérieur et l'extérieur, les sujets de ces images s'interprètent à l'aune des tissus indigènes et bariolés qui, s'ils mettent en avant leur culture, dissimulent également les corps féminins qui les portent. Nous avons vu comment la présence des tissus cache des corps tout en les montrant socialement et culturellement. Que se passe-t-il lorsqu'il s'agit d'un tissu transparent ? Nous envisagerons alors la transparence du voile comme une réflexion autotélique de l'image photographique. La troisième partie s'intitule donc « Transparence, voile, surface » et nous étudierons donc le motif du tissu est transparent et translucide dans la série qui nous intéresse. Le terme « voile » vient du latin « velum » qui signifie « tisser » mais qui désigne également une étoffe servant à tamiser la lumière ou à couvrir un espace sans toiture. Héritier de ces diverses significations, le mot « voile » renvoie tout particulièrement à une fonction spécifique, qui est de faire écran au regard. Ainsi, il met en relation ou en tension le spectateur et l'objet de son regard. Ainsi, dans les images de Raffaele et d'Olvide, les voiles sont transparents. Ils montrent en couvrant, protègent les visages de la lumière. Ainsi, cette image, « Bello para el viento », montre un enfant avec un voile transparent sur le visage, apparemment pour le protéger du vent. Ici, le voile n'est plus opaque, comme le serait le tissu qui cache complètement le corps. Pourtant, ce n'est pas tout à fait le corps même qui est montré. On le voit, mais on ne peut pas le toucher à travers le voile. C'est la matière du tissu qui se manifeste sous ses doigts. En photographie, le sens du toucher est annulé, forcément, et visuellement, on s'éloigne du visage du sujet. Il y a moins de lumière pour percevoir son visage, et ses traits sont brouillés. Moins reconnaissable, le spectateur le discerne moins. Cette couche symbolique de tissu éloigne le sujet du regard, faisant écran, ajoutant une distance. Ainsi, l'image suivante, Jueves Santo, reprend donc ce même motif du voile. On voit donc une petite fille endormie sous un voile brodé. Ici, le voile n'est pas complètement transparent. Une nouvelle matière s'ajoute, celle de la broderie qui cache une partie du visage. Les yeux fermés, le voile est par-dessus. Les yeux sont fermés, le voile est par-dessus et participe à un éloignement du sujet face au spectateur. On ne peut le saisir. Traditionnellement, on dit bien sûr que les yeux sont le reflet de l'âme. Dans la photographie, donc, couvrir les yeux du sujet empêcherait symboliquement l'accès à cet intérieur de l'être. Des couches de réalité se superposent dans cette image. Les paupières, le voile, la peau, les habits, la photographie enfin, tout cela fonctionne comme des surfaces qui cachent l'essence de ce qui est photographié. Voile du réel, elle montre en empêchant de saisir, tout en s'en faisant la manifestation. Selon Serge Tisseroux, dans Le mystère de la chambre éclair, il est possible de penser la photographie donc soit comme trace, soit comme empreinte. Envisagée comme empreinte, elle est, je cite, l'attestation d'un passage, la mise en contact fortuite d'un objet avec une surface réceptrice. Elle marque le désir de laisser le sujet photographié éternellement présent, la marque d'un corps sur une surface. Pensée comme une trace, elle est la marque d'une action, comme présence au monde du sujet. Nous pouvons dès lors penser les images de la télé Turbide sous le mode de l'empreinte. Les corps semblent s'être posés sur le négatif. C'est la présence et l'absence d'un corps qui est ici constaté. Par sa position endormie, cette enfant est silencieuse, doublement muette puisqu'elle est photographiée. Toutefois, le regard est un moyen puissant puisqu'il mobilise le souvenir. En voyant ce visage sous ce voile, on imagine le geste que sera cette levée du voile sur le visage. L'image suivante, c'est la fine, peut-être considérée comme étant un anti-portrait. Il y a un cadre, il y a un corps, mais le visage n'apparaît pas. On devine une figure derrière le voile sans qu'elle ne se montre. L'image interroge ici le processus de reconnaissance d'un visage dans l'image. Comme le souligne Roland Barthes dans La Chambre claire, les portraits des personnes aimées ne ressemblent jamais aux souvenirs que nous avons d'elles, produisant une distance infranchissable entre le souvenir et l'image. La photographie, dans ce sens, serait la science impossible de l'être unique. Un jeu entre l'absence et la présence du corps se met alors en place. On croit deviner son visage sans qu'il n'apparaisse. La photo déçoit doublement l'attente du spectateur, puisque par son essence, la photographie déçoit d'abord. Elle est comme le réel, mais elle n'est que surface. Elle rate toujours à être le réel. Ainsi, par exemple, pour celui qui est en deuil, l'image de la personne aimée n'est qu'un palliatif. En plus de cela, ici, c'est la finale des soins du spectateur, à nouveau, une seconde fois, parce que le visage n'apparaît pas. On croit le deviner, mais il s'affirme tragiquement dans son absence. Ce qui semble alors définir l'identité du sujet, c'est son corps, et plus spécifiquement, la toile épaisse de sa jupe, qui cache son corps. C'est donc ici le tissu comme surface qui est exposé. Ainsi, cette image peut être lue à l'aune d'une vision autotélique de la photographie, puisqu'elle met en avant des problèmes qui en font l'essence. Elle manque ainsi à dire le réel, tout en étant sa manifestation sensible. Pour conclure, nous pouvons dire que la manifestation de la surface est présente en filigrane de la série Rushetal. Des peaux, des cuirs, des textures différentes sont proposées au spectateur, qui, s'il voit ces images attentivement, parvient à atteindre un sentiment proche de la synesthésie. Paradoxalement, les images de la télé Turbide sont sensibles et s'adressent autant au sens du toucher qu'à la vue. Le motif de la peau entre alors en résonance avec la photographie elle-même, pensée comme surface. Il est impossible d'en voir l'intérieur. La peau humaine cache l'essence de l'être, tout en étant la manifestation de cet être dans le réel. Par le motif de la peau, les images de la Célé Turbide renvoient à l'essence de la photographie, en tant qu'elle dit quelque chose de l'intériorité des êtres qu'elle présente, sans toutefois percer leur secret. Les corps apparaissent ensuite cachés par des tissus. Corps féminins, ils sont protégés du regard de l'autre. Et le tissu est à la fois une manière de dissimuler, tout en montrant l'appartenance culturelle. Les vêtements qui s'affichent dans ces images sont des vêtements traditionnels qui s'ancrent dans une cérémonie particulière, celle du Rato de la Novia. À ce titre, le tissu du drap cache le corps de la jeune mariée tout en dévoilant la fin de l'acte sexuel, qui devient public. Le corps sous le tissu devient donc l'intersection du privé, du public, de l'intérieur, de l'extérieur, et le motif du tissu devient le lieu du seuil entre l'intérieur et l'extérieur, le corps intime et le corps social. Finalement, nous pouvons lire le motif de la transparence à l'aune d'une conception autotélique de la photographie. Toujours sur le modèle du seuil, les portraits pris derrière un voile translucide empêchent d'en discerner les traits. L'image est alors renvoyée au problème de la photographie face au réel. Elle semble toujours manquer le réel, qu'elle n'arrive à présenter qu'en surface, comme une peau glacée du moment qu'elle a saisie. Nous pouvons donc constater que les images de la télé Turbide posent les fondements d'une conception sensible de la photographie. Ces images s'affirment comme surface du monde et épiderme du réel. Merci pour votre attention.
Pour Gaëlle, justement, je me demandais si donc cette série-là, de ce que je comprends, toutes les photos sont en noir et blanc, mais est-ce que ça a été le cas d'autres photographies qu'elle a pu prendre? Est-ce qu'elle privilégie toujours ce chromatisme-là qui tend justement à faire disparaître voilà, tout ce qui, faire disparaître le chromatisme en couleur, et c'est un peu une façon, comme tu as dit, de faire taire le visuel et de privilégier tout ce qui est plus synesthésique, puisque du coup on a plus ce rapport aux couleurs. Et nous, je me demandais, oui, si, y avait d'autres photos ou d'autres séries de photos qui étaient encore en couleur, ou sinon vraiment elles faisaient tout en noir et blanc.
Dans la dernière série qu'elle a fait justement pour l'exposition à la Fondation Cartier, si je me souviens bien, les photographies de roches qui n'ont justement pas de corps, enfin, où il n'y a pas de personne humaine, elles vont être en couleur. La grande partie de son travail, donc si vous êtes, si tout le monde allait voir l'expo, je ne sais pas, mais c'est la partie qui est en bas, qui est donc la plus ancienne, celle des années 70-80 à peu près. Là, c'est que du noir et blanc, pardon. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que en fait, la couleur apparaît quand les corps disparaissent, en fait.
Et moi, il y a une photo, Gaëlle, quand tu as parlé de la mise en scène des corps des jeunes filles, de la virginité et le passage au statut, enfin, changement de statut de la jeune fille à la jeune fille mariée. Il y a une photo de Rapt qui, alors, je retourne sur mes grands chevaux à moi, mais ça me rappelle les rites de mariage antiques, en fait. Avec ces histoires de seuil et d'enlèvement de la jeune mariée. Du coup, je me demandais si tu en savais un tout petit peu plus sur ce rituel de mariage. Est-ce qu'il y a aussi un échange de la main qui passe par les autorités masculines et qui du coup ne demande pas la parole à la jeune fille ou des choses comme ça? Enfin, et s'il y a des représentations de ça?
Alors, en fait, dans une interview, Graciela Iturbide, elle explique que, en fait, elle est restée vraiment très longtemps avec parmi la communauté des Zapotèques pour les documenter. Et enfin, plusieurs mois, je crois que c'était presque un an. Elle a vécu vraiment avec eux, donc elle était en immersion. Enfin, c'était vraiment un travail documentaire long, voilà. Et en fait, ça a été, enfin, ils lui ont pas tout de suite permis de photographier la mariée, quoi. Enfin, juste en plus, c'est un moment qui est super intime. Donc, enfin, elle explique dans cette interview qu'elle a vraiment eu de la chance parce que c'était pas quelque chose qu'elle aurait osé demander à ces personnes-là. Et naturellement, ils lui ont proposé de documenter cette scène-là. Donc, enfin, c'est quand même un moment qui est assez spécial, quoi. Tout le monde n'avait pas forcément accès à ce genre de relation avec les apothèques pour ça. Et ensuite, donc, la société Zapothèque, si je ne m'abuse, c'est une société matriarcale dans le sens où ce sont donc elles ont le pouvoir à la maison, alors que les hommes vont plutôt être tournés vers l'extérieur, comme c'est souvent le cas. Mais il y a vraiment un accent qui est mis sur l'importance de leur rôle dans le foyer. Donc en fait, les femmes qui dansent, voilà, vont être un peu comme les matriarches un peu de la communauté. Et ce sont elles qui, après la consommation de l'acte, vont aller vérifier qu'il y avait bien du sang sur les draps. Et en fait, donc s'il y a du sang, il y a des festivités qui durent près d'une semaine, je crois, où enfin, toute la communauté est en liesse. Enfin, et c'est assez spécial parce que enfin, ça met, enfin, c'est une responsabilité qui est grande pour la jeune mariée, quoi. Et donc ce sont elles en fait qui vont un peu donner le signal de la que la fête commence. Et si en fait il s'avère qu'elle n'était pas vierge, il n'y a juste pas de festivité. Enfin, enfin, symboliquement c'est assez fort. Et ouais, voilà, je trouvais que vraiment il y a une exposition du corps de la jeune mariée qui du coup passe d'un statut de l'enfance ou de l'enfance à l'âge adulte, qui est vraiment, enfin, qui passe par l'exposition de son corps et de son sang au reste de la communauté. Donc,
Ça me fait
finalement.
penser au séminaire qu'on avait fait sur les populations indigènes, avec ce rapport aussi à comment l'altérité, que ce soit l'artiste ou l'anthropologue, donc le scientifique, arrive à établir un dialogue assez confiant pour que la communauté indigène le laisse rentrer dans ce qu'on a, ce à quoi on n'a pas accès, dans ce qui me passait beaucoup sous silence, pour le montrer aux autres, quoi.
Oui, tout à fait.
Finalement, c'est extrêmement violent cette façon qu'elle a d'exposer, que ce soit les corps des animaux égorgés dans la série. Elle a toute une série où elle photographie ce rituel de meurtre, d'abattage des animaux. Et finalement, ce que tu as montré là, que tu as exposé, ça se relie. Enfin, c'est quelque chose de presque. Je sais pas comment l'exprimer. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gaëlle?
Oui, notamment dans Huichitan, en tout cas, il y a toute une série, il y a toute une partie qui sont des scènes de marché, mais ce sont des scènes de marché qui sont assez violentes visuellement parce que, voilà, on aura des poulets éplumés, des iguanes, donc je ne l'ai pas mise, mais par contre, je vous recommande d'aller voir son site internet qui est très bien fait. Et qui montre en fait pratiquement toute son œuvre. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, il y a cette possibilité-là. Il y a une photo qui est très connue qui s'appelle Nuestra Señora de las Iguanas. Je ne l'ai pas mise ici, mais donc en fait, si vous voyez cette photo, c'est une dame prise en contre-plongée avec une couronne d'iguane sur sa tête. C'est assez particulier. Et donc on a l'impression que c'est une photo qui a été. Posé, réfléchi, etc. Et en fait, pas du tout. C'était juste une dame qui allait au marché et qui allait vendre ses iguanes et elle avait mis ses iguanes sur sa tête. Et je trouve qu'elle arrive à mettre... Elle met vraiment l'accent sur la relation entre les corps humains et les corps animaux. Je trouve ça assez intéressant parce que il n'y a pas... Enfin, c'est presque horizontal comme rapport. C'est un rapport qu'on n'a plus forcément... avec l'industrie animale, etc. Et oui, donc là, on va vraiment voir des poulets égorgés, des iguanes entassés dans un panier. Et ça devient des corps, ça devient des peaux, des textures qui sont mises sur le même niveau que le corps humain, quoi.
Mmh.